celle qui a été désignée en 2018 femme de l'année en Tchéquie dans la catégorie sphère publique, dans le cadre d'une enquête du quotidien économique Hospodářské noviny. À 53 ans, Kateřina Šimáčková peut se targuer d'un parcours sans faute. D'abord avocate en début de carrière, elle est aujourd'hui juge à la Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique de Tchéquie, un poste qu'elle est une des deux femmes à occuper sur un collège complet de 15 magistrats. Si elle-même ne semble pas avoir souffert du fait d'être une femme au cours de sa carrière, Kateřina Šimáčková est, de par son intérêt professionnel pour les questions liées aux droits de l'homme, sensibilisée au manque de parité dans le monde de la justice tchèque. À l'heure actuelle, Kateřina Šimáčková prépare la sortie prochaine d'un ouvrage collectif intitulé « Le droit masculin » dont le site internet doit être lancé ce dimanche à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Kateřina Šimáčková a récemment accueilli Anna Kubišta à la Cour constitutionnelle à Brno en Moravie pour évoquer son parcours, ses combats et ses réflexions.
Panorama.
Panorama. Kateřina Šimáčková, quand et pourquoi avez-vous décidé d'étudier le droit et d'en faire votre métier?
À vrai dire, être juriste, ce n'était ni le choix de mon cœur, ni la tradition familiale. Je voulais étudier la sociologie, la théorie de la littérature, alors c'était le domaine qui m'attirait. Et c'était ma mère qui m'a conseillé d'exercer un vrai métier qui est utile pour des gens, qui est utile pour la société. Et ma mère était médecin, psychiatre, et ses patients rencontraient souvent des problèmes juridiques. Alors, j'ai commencé à étudier le droit.
Alors justement, vous parlez de votre mère. J'avais envie de vous demander justement quel modèle féminin, au singulier ou au pluriel, ont pu vous influencer dans votre famille ou dans votre entourage proche.
Oui. C'était surtout ma mère, mais c'était pas seulement la mère, mais aussi ma grand-mère qui m'a influencée. Elle était enseignante au lycée. Elle enseignait la langue et la littérature tchèque et l'histoire. Pendant mon enfance, elle était déjà en retraite et elle m'a soignée pour aider ma mère parce que ma mère était vraiment souvent dans l'hôpital. Même si elle était en retraite et avec moi, ma grand-mère travaillait aussi. Elle donnait des cours privés aux élèves qui préparaient leur bac de tchèque. C'était en fait des cours de rattrapage connus en France aussi. Pendant mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps en écoutant des leçons de ma grand-mère. Elle était un professeur extraordinaire, je me souviens. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps avec ma mère et ses petits patients. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et aussi quelques temps aussi des patients de ma mère ont arrivé chez nous. Je trouvais tout à fait normal que des femmes travaillaient et les enfants étaient intégrés dans ce processus professionnel. On en faisait partie. Et depuis ce temps-là, je suis persuadée qu'il est vraiment important d'enseigner les autres et que les personnes en situation de handicap peuvent devenir mes amis et qu'il faut les aider. Et quand vous demandez le modèle féminin, ce n'était pas seulement des femmes, mais c'était aussi mon grand-père qui était pour moi assez important. C'était un vrai gentleman de la Première République. Il vraiment admirait ma grand-mère parce qu'il était une femme forte, parce qu'il avait sa propre carrière, qu'il était passionné par sa profession, mais par exemple aussi par le sport, etc.
Oui, c'est vrai que j'ai demandé les modèles féminins, mais c'est vrai que c'est important, en fait, quand, en tout cas pour cette période-là où finalement l'émancipation des femmes n'était peut-être pas la même que celle d'aujourd'hui, encore que c'est discutable celle d'aujourd'hui, mais que les hommes soient ouverts, en fait, à l'émancipation de leur épouse, de leur sœur et des femmes autour.
Oui, c'est vrai, parce que j'ai vu que quand on est une femme forte, alors c'est admiré par des hommes. C'était admiré, par exemple, par mon grand-père.
Alors, peut-être plus avant, est-ce qu'il y a eu au cours de votre carrière des personnalités, alors du coup, femmes ou hommes, hein, qui vous ont marqué pour leurs valeurs, leur regard sur le monde, sur la justice, et justement qui vous ont peut-être voilà, vraiment inspiré pour votre métier?
Alors, je vous donne un homme et une femme.
C'est la parité.
L'un de mes premiers engagements professionnels était la fonction de référendaire auprès du juge Antonín Procházka. C'était membre de la première cour constitutionnelle après la révolution tchèque. Il était en tant qu'étudiant en droit pendant la chute de l'État démocratique en 1948, emprisonné pour ses avis anticommunistes et religieux, et il a passé plusieurs années en prison. Malgré cela, ou peut-être grâce à cela, c'était quelqu'un de très gentil et aimable. Cette expérience avec juge Procházka m'a permis de développer la théorie suivante. La meilleure formation pour un juge de la Cour constitutionnelle est de passer quelques années en prison pour ses opinions politiques dans la lutte contre les régimes non démocratiques. Une autre personnalité, une juriste, qui m'a profondément marquée est Eliška Wagnerová. Elle aussi a refusé pendant le régime communiste de servir aux idées auxquelles elle ne croyait pas, et pour cette raison, elle a vécu plusieurs années en émigration en Allemagne et au Canada. Son approche juridique était complètement différente que l'approche de mes professeurs à la faculté parce que je fais mes études pendant les années 80. Václav Havel, notre président à l'époque, l'a nommé d'abord présidente de la Cour suprême et après cela vice-présidente de la Cour constitutionnelle. Il faut dire que plusieurs décisions qu'elle a préparées en tant que juge rapporteuse à la Cour constitutionnelle figurent parmi les meilleures décisions de la Cour que j'ai jamais lues.
Vous avez un exemple peut-être?
Oui. Il y a eu beaucoup, parce que c'était les premières années après la Révolution, alors c'était vraiment nécessaire de résoudre beaucoup de problèmes de la transition après la chute du communisme. C'était par exemple l'histoire d'une personne qui était emprisonnée par des communistes, mais quand même des juges après la Révolution n'ont pas reconnu l'injustice causée à lui, par exemple. Mais c'était aussi, par exemple, ma thème aimée, la protection des droits des personnes avec handicap psychosocial. Alors, c'était des premières décisions qui ont abordé par cette question-là.
Avant de devenir juge, alors je ne suis pas sûre si la traduction est exacte en français, au tribunal administratif suprême, on dit en tchèque, puis à la Cour constitutionnelle, donc aujourd'hui, vous avez été avocate, donc vous avez été de l'autre côté. Qu'est-ce que cette première partie de votre carrière a apporté à votre travail de juge actuel?
C'est vrai que ce type de carrière est plutôt anglo-saxonne que tchèque ou français. Mais je pense que sa possibilité d'avoir toutes les deux expériences en tant qu'avocat et en tant que juge est à mon avis idéale pour la profession de magistrat. L'expérience avec le métier d'avocat vous permet de bien repérer les fautes dans le fonctionnement de la justice, de voir comment les gens souffrent en attendant longtemps une décision de justice et de savoir aussi à quel point on peut être fâché si on n'y trouve pas des réponses suffisantes. Alors je pense que cela m'aide vraiment beaucoup.
Vous êtes une des deux seules femmes juges à la Cour constitutionnelle, hein, qui se trouve à Brno, pour ceux qui ne le sauraient pas, et où nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que le monde de la justice tchèque est un club masculin très fermé? En tout cas, au niveau de la hiérarchie supérieure, on pourrait le penser, puisqu'il n'y a que deux femmes sur un collège d'une quinzaine, je crois, de juges. Hein.
Oui. C'est vraiment compliqué à expliquer, mais vraiment simple pour comprendre, peut-être, parce que dans notre pays, il y a plus de femmes que d'hommes dans la justice. Je pense que c'est pareil en France. Nous avons 61% de femmes juges dans la justice en général, mais dans les autres juridictions, la situation est vraiment complètement différente. À la Cour suprême, il y a seulement 22% de femmes. Et en 2003, quand la Cour administrative suprême était créée, la proportion hommes et femmes était vraiment équilibrée. Maintenant, on n'y trouve que 28% de femmes. Alors, ce n'est pas l'amélioration, mais c'est maintenant pire que quand la Cour commençait. Les présidents de toutes les juridictions supérieures sont maintenant les hommes. C'est seulement au niveau des tribunaux de district qu'on trouve quelques femmes au poste du président. Les chambres d'avocats, de notaires et de huissiers de justice sont présidées aussi par des hommes. Et ainsi, dans la justice tchèque, des femmes décident en première et deuxième instance, mais c'est vrai que les hautes juridictions sont réservées surtout aux hommes.
Alors justement, on va peut-être revenir aussi à ce sujet un petit peu plus tard, mais avant je voulais peut-être vous demander, est-ce que justement au cours de votre carrière, ça c'est vraiment une question plus personnelle, vous avez dû faire face à des obstacles parce que vous êtes une femme?
C'est vraiment une bonne question. Merci pour cette question. C'est exactement la même question qu'un journaliste m'avait posée il y a 4 ans, je pense. Et cette question m'a amenée à réfléchir sur nos règles juridiques et sociaux dans la perspective du genre. Je n'étais pas discriminée en tant que femme, mais j'étais obligée de jouer selon les règles créées surtout par les hommes et pour les hommes. Alors, quand vous êtes prête à respecter le système créé par les hommes, surtout par les hommes traditionnels, qui pensent traditionnellement, et aussi surtout par les hommes dans le passé, parce que les règles juridiques étaient créées en passé, alors vous n'avez pas de problème, mais des règles sont masculines.
Donc ça répond un petit peu finalement à ma question suivante. Finalement, je voulais vous demander si vous avez eu l'impression de devoir parfois vous comporter en homme afin de faire entendre votre voix. C'est un peu le cas, en fait, finalement.
Oui, c'est aussi une question que pose moi-même quelque part. Et peut-être c'est vrai, mais si je pouvais changer quelque chose dans mon passé, je serais moins agressive et j'agirais de manière plus consensuelle, parce que personne ne peut gagner en utilisant les instruments qui ne sont pas les siens.
Est-ce qu'il y a au contraire des moments dans votre carrière où le fait d'être une femme vous a avantagée?
Oui, il y a eu des moments. C'était dans la situation quand j'ai dépassé ce qu'on appelle le plafond en verre. Vraiment, quand vous dépassez cette ligne imaginaire, alors tout le monde demande votre présence dans les débats, dans les fonctions, aux conférences, etc. Parce que vous êtes une femme visible. On peut entendre chez nous la critique dans le milieu académique, intellectuel, que les femmes sont mal représentées. Quand quelqu'un veut montrer qu'il y a aussi des femmes en différentes fonctions, on ne voit que les femmes qui ont déjà réussi, mais pas les autres. Alors, dans ce moment-là, vous êtes plus visible. J'aime beaucoup le mot qui est utilisée par des auteurs allemands. Ils disent que c'est une femme alibi.
Oui, j'allais vous dire, je pensais à l'alibi d'ailleurs. Je me demandais si c'était pas une forme d'alibi. En même temps, c'est une manière peut-être enfin de pouvoir faire passer, certains messages que c'est un alibi, mais c'est positif aussi. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, parce que quand vous êtes une femme alibi, alors cela peut pousser votre carrière un peu. Mais vous pouvez voir l'injustice vis-à-vis des autres femmes.
Et ça, cette prise de conscience, vous l'avez vu, comment dire, vous l'avez eu petit à petit, ou c'est plutôt récent finalement de vous rendre compte que ça fonctionne vraiment comme ça.
C'était petit à petit, mais à vrai dire, je me souviens que quand ma carrière a commencé, quand j'ai commencé en tant qu'avocat, alors j'ai lu beaucoup de littérature féministe. C'était pas pour discuter sur ce problème-là, mais peut-être pour s'assurer que c'est normal. Que mon approche dans ma profession et mon approche de vie est normale. Et vraiment, les textes féministes peuvent aider.
Simone de Beauvoir, par exemple, je sais que vous la citez, elle vous la citez aussi.
Oui. Parce que dans le... Vraiment, je me souviens que dans la bibliothèque de ma mère était la deuxième sexe de Simone de Beauvoir parce que pendant les années 60, était en 68, c'est l'année de ma naissance. Alors, cela a apparu aussi en la version tchèque. Alors, je me souviens, et c'était pas seulement moi, mais aussi ma mère qui... trouvais que lire des livres féministes peut aider.
Alors, un juge, en tout cas, c'est la représentation évidemment qu'on a, est censé être neutre et impartial, mais chaque personne a quand même une histoire personnelle, une approche différente selon son sexe. Les juges ne sont pas des robots. Dans quelle mesure, selon vous, le fait d'être une femme juge peut avoir une incidence sur une décision de justice par rapport à celle d'un juge homme, tout en respectant une forme d'impartialité, bien sûr?
Oui. Je pense que dans notre société, en général, les femmes et les hommes ont toujours des expériences de vie très différentes. C'est par exemple l'expérience de soigner quelqu'un. C'est une expérience toujours plutôt féminine, car ce sont surtout les femmes qui s'occupent des enfants, des personnes handicapées, des seniors. Et aussi les juridictions, surtout les cours suprêmes ou les hautes juridictions, doivent avoir une composition multicolore, en raison d'une expérience personnelle différente, mais aussi pour des raisons symboliques.
Et puis peut-être, pour le coup, puisqu'on parle des différences entre les hommes et les femmes, j'imagine qu'une juge femme aura peut-être fait plus l'expérience, par exemple, de la discrimination qu'un juge homme, et donc peut-être plus sensible à, dans le cas d'une affaire de discrimination, quelle qu'elle soit, peut-être plus sensible à ce genre de questions-là.
Oui, c'est possible, mais quelque part, on voit aussi des femmes qui dénient cette expérience parce qu'elles étaient forcées d'être vraiment fortes. Alors, ils ne veulent pas montrer des problèmes, ils ne veulent pas raconter ces expériences de ce type. Alors, il y a des différentes approches féminines.